Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La blague du jour, c'est un monsieur qui va voir son médecin parce qu'il a des problèmes d'érection. Le médecin lui répond, la seule solution aujourd'hui, c'est la greffe. Il faut donc attendre de trouver donc un donneur. Nous reprendrons contact dès que possible. Le médecin le rappelle après quelques mois, le fait venir à son cabinet et lui fait la proposition suivante. L'homme descend du singe. Pourquoi ne pas vous greffer un sexe de singe ? Disponible actuellement. La chose fut faite avec succès. Quelques mois plus tard, le monsieur attend impatiemment l'accouchement de sa femme. Enfin, une infirmière arrive pour le rassurer. L'homme demande « Alors, petit garçon, petite fille ?» L'infirmière lui répond « On ne sait pas encore, il a sauté sur l'armoire. »
Cœur, poumon, foie, vie, accident, rejet, sensation, liste d'attente, cellules souches, donneur, receveur, baseball, transplantation, traitement à vie, graisse anatomie, hôpital, angoisse, trafic, gratuité, législation, don, chirurgie, grande révision, échange standard, garantie, carte de donneur, rhésus, compatibilité, anonymat, famille, sauveteur, ACLOF, religion, urgence, Georges Clooney, clonage, Richard Berry, greffe, organe, Argus, boucherie, charcuterie, conservation, cryogénie, glaciaire, halal, temps d'intervention, prélèvement, espèces, universalité. Vous ne l'aurez pas compris aujourd'hui, mais de quoi allons-nous parler ? D'un renouveau dans la vie, à savoir le don d'organes. Le don d'organes est le prélèvement d'organes et de tissus d'un corps humain appelé donneur pour traiter des patients appelés receveurs dont les organes essentiels sont gravement atteints. Le prélèvement chirurgical peut s'effectuer sur des personnes mortes ou en état de mort cérébrale. Il s'agit du don d'organes post-mortem ou sur des personnes vivantes. On parle alors de don d'organes de son vivant. Il s'agit de la première étape avant la réalisation d'une transplantation chez un receveur. Pour en savoir un peu plus, nous avons invité de l'hôpital d'Évreux, Madame le docteur Pascal Dubosc et l'infirmière de coordination, Madame Denis Sandra, ainsi que Monsieur Boutelet Alex, qui viendra témoigner de son parcours.
Au sommaire aujourd'hui, des lectures rejetées par le point démo, quelques musiques organiques, un micro-trottoir compatible, un nouvel épisode du Narvalo extrait sans anesthésie, une minute du pôle a priori viable, une interview d'une précision chirurgicale, une recette de cuisine thérapeutique. Pour vous transplanter aujourd'hui, nous avons Cole, Didier, Rémi, Stéphane, Jean-Roger, Romain, Béatrice, Sandrine, Vivien et notre greffé des ongles, Timothée.
Un poème, c'est s'évader, à peine plus que la liberté, qu'un typhon s'exalte. Un tremblement s'ouvre, une inondation se referme, ça vous fige. Vlan, la porte se claque, ça me fait peur. Bien que la sûreté, on s'amuse à la braver. On va sauter, on va danser. On était pour rester près de la cheminée. Un poème, c'est s'enivrer pour se réconforter.
I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and haddie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong and the gratty. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well.
Eartha Kitt, My Heart Belongs to Daddy.
Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Principe Actif. Excusez-moi. Donc, bienvenue sur l'antenne de Principe Actif. Aujourd'hui, nous allons donc faire interviewer. Nous recevons en lieu de Principe Actif à Évreux. Madame le docteur Pascal Dubosc, bonjour.
Bonjour.
Madame. L'infirmière de coordination, Madame Denis Sandra.
Bonjour.
Bonjour, madame. Ainsi que Monsieur Boutelet Alex, qui viendra témoigner de son parcours au niveau d'une greffe qu'on a effectuée sur sa personne.
Bonjour tout le monde.
Ah, bonjour.
Merci. Pour nous en dire plus, tout de suite je commence, excusez-moi. Pour nous en dire plus sur la question du don d'organes, faut-il porter sur soi une carte de donneur pour pouvoir donner ses organes? Faut-il porter sur... Je ne sais pas qui veut répondre.
Alors, en France, c'est le principe du consentement présumé qui s'applique. C'est la loi française. C'est-à-dire que toute personne, à partir du moment où elle n'a pas fait connaître de son vivant son opposition au don d'organes, est présumée donneuse. La seule chose qui ait une valeur légale, c'est l'inscription sur le registre national du refus. Sinon, on peut avoir effectivement une petite carte sur soi qui témoigne de son positionnement par rapport au don d'organes, mais le mieux, c'est d'en parler à ses proches, car c'est eux qui seront interrogés si un jour, par malheur, il vous arrive quelque chose. Et c'est eux qui témoigneront de notre positionnement par rapport au don.
Y a-t-il limite d'âge ? Pour les donneurs comme pour les receveurs?
Alors, pour les donneurs, il n'y a pas de limite d'âge. J'ai envie de dire que c'est plutôt un âge physiologique. On peut avoir 80 ans et en très bonne forme et être un très bon donneur. Et puis, on peut avoir 60 ans et avoir des pathologies qui font que vous ne pourrez pas être prélevé. Pour recevoir un greffon, on va dire qu'on peut recevoir un greffon à peu près jusqu'à 70 ans. Après, ça devient difficile.
Y a-t-il des personnes prioritaires en tant que receveur? Et quels sont les critères de priorité?
La priorité, c'est l'urgence vitale. Oui, il y a une liste d'attente qui est gérée par l'Agence de la biomédecine. C'est un organisme national qui est sous la responsabilité directement du ministère de la Santé. Et il y a toute une gamme de critères qui vont faire qu'on va être prioritaire ou pas par rapport à un organe. Sachant qu'on a ce qu'on appelle des greffes prioritaires en urgence absolue, c'est-à-dire c'est les personnes qui vont décéder dans les 48-72 heures s'ils ne bénéficient pas de cette greffe.
En naviguant sur Internet, nous avons découvert des sites de particuliers qui vendent des organes. Qu'en pensez-vous ? Qu'est dit la législation pour cela ? Est-ce qu'on peut parler de la vente d'organes ?
Alors, je rappelle qu'en France, la vente d'organes est complètement interdite, évidemment, que la France, justement, c'est le don d'organes anonyme et gratuit. C'est pour ça que c'est géré, d'ailleurs, par l'Agence de biomédecine régie par des lois. Je suis étonnée de savoir que ça puisse exister sur Internet. Mais en France, c'est complètement illégal.
En France, c'est... Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à acheter un organe puisque tout le monde peut en bénéficier. Il faut savoir que pour être greffé, il faut forcément passer par l'Agence de la biomédecine. Alors vous allez me dire, il peut y avoir des cliniques qui vont prélever et greffer de façon clandestine. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un traitement dont M. Boutelet pourrait témoigner, qui est un traitement à vie, que ce traitement est très lourd. Et que pouvoir financièrement payer de sa poche ce traitement est difficile, et de toute façon se procurer ces médicaments n'est aujourd'hui pas possible en France. Donc en France, aujourd'hui, un, il n'y a pas d'intérêt à le faire, puisque tout le monde a accès à la greffe, hein, c'est l'égalité, l'idée c'est vraiment que chacun soit égal devant la greffe, et en plus c'est extrêmement compliqué de le faire.
Y a-t-il, êtes-vous au courant, y a-t-il des échanges avec les autres pays et dans quel cadre législatif au niveau de l'organe ?
Alors des échanges très peu. Il peut y avoir des greffons qui partent par exemple dans les régions frontalières. Il ne faut pas oublier qu'on a une contrainte de temps. Et qu'un greffon qui est prélevé, par exemple, pour parler du cœur, il faut qu'il soit greffé forcément dans les 4 heures. Donc on est forcément limité par ça. Par exemple, l'île de la Réunion, les DOM-TOM, qui font partie de la France, sont extrêmement pénalisés par rapport à la greffe, parce qu'ils sont très loin, et qu'ils ne peuvent être greffés qu'à partir d'un donneur de l'île. Et chez eux, par conséquent, les délais d'attente pour être greffés sont extrêmement longs.
Peut-on choisir d'être donneur partiellement, c'est-à-dire que des certains organes et non d'autres ?
Oui, tout à fait. On peut témoigner donc auprès de sa famille et accepter de donner certains organes et d'autres non. Et donc le souhait du défunt sera toujours respecté. Effectivement.
D'autre part, le receveur peut-il connaître l'identité de son donneur ? Dans quelles conditions et selon les circonstances ?
Eh bien non, c'est ce qu'on avait rappelé, la loi dit que c'est gratuit et anonyme, donc on ne peut pas connaître du tout l'identité. Par contre, il est tout à fait possible, et c'est notre travail, de repasser par les coordinations, soit pour la famille du donneur, d'avoir des nouvelles des gens qui ont été greffés, savoir qu'est-ce qui a été greffé, si ça a fonctionné, et prendre des nouvelles des gens qui ont été greffés, ou... pour eux, comme ça, pouvoir suivre. Donc certaines familles le font, d'autres non, pour voir un suivi, en fait, de ce qui avait été greffé. Et des gens, et de leur état de santé, surtout.
Y a-t-il un travail préparatif pour les receveurs ? Par exemple, une préparation physique, une préparation psychologique ?
Oui, effectivement. Donc, avant de pouvoir recevoir un organe, il y a une grande préparation. Il faut être en forme, entre guillemets, totalement. Hein. Donc, on fait des examens approfondis sur toutes les parties du corps. Et à partir de là, une fois que tout va bien, on va être inscrit sur une liste de greffes d'attente. Et donc, moi, personnellement, j'ai attendu 2 ans. Donc, 2 ans de dialyse en attendant la greffe.
Et les cas contraires ? C'est-à-dire que si on n'est pas préparé...
Ah bah, tant que si vous avez, admettons, même un rhume, quelque chose, si vous n'êtes pas en santé physique le jour, même que si on vous appelle et que vous, on fait des examens aussi toute la nuit, et si vous n'êtes pas en forme, on ne vous greffe pas.
Y a-t-il des maladies, par exemple, qui sont liées ou, disons, qui interviennent dans la non-prise en charge de certains receveurs? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui souffre d'une telle ou X maladie ne peut pas subir de greffe.
Bien sûr, ça c'est le travail des équipes de greffe, de sélectionner les patients et de déterminer s'ils vont pouvoir être greffés ou pas. Parce que, un, il faut que la greffe bénéficie au receveur, hein, c'est quand même l'objectif final. Et puis, deuxièmement, on a une telle pénurie d'organes en France qu'on est très, très attaché à ce que cette greffe fonctionne. Donc, on va lui donner toutes les chances possibles de fonctionner.
Eh bien, nous vous remercions. Pour l'instant, nous allons écouter un micro-trottoir qui est l'inscription au refus de don d'organes, car c'est assez... assez superficiel comme question, mais enfin bon, je vous lance le micro-trottoir.
Savez-vous que si vous n'êtes pas inscrit sur le registre national des refus de dons d'organes, vous êtes considéré comme donneur? Et qu'en pensez-vous?
Oui, bah, c'est une bonne chose. Oui.
Bah, écoutez, hein.
Oui,
qu'ils prennent mes organes, moi, ça me choque pas.
D'accord.
Oui, je sais.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
Je pense que cette mesure est très bien.
Pourquoi?
Pour moi. Parce que c'est tellement compliqué. Enfin, moi, je suis infirmière, d'autant plus infirmière au SAMU. Donc, parce que c'est compliqué, en fait, quand on apporte quelqu'un qui est en mort végétatif, déjà de présenter le décès de la personne physique, mais qui est toujours là, et de demander à la famille... Enfin, c'est comment expliquer ça? C'est pas un moment, le deuil, c'est pas un moment pour demander à la famille justement pour savoir s'ils sont OK pour donner les organes de la personne disparue. Mmh. Voilà, tout simplement.
Oui, je le sais, mais moi je suis donneuse d'organes, donc je suis pas inscrite.
C'est un choix.
Donc voilà, c'est un choix personnel. Je suis pour le don d'organes.
Si je peux, par exemple, si j'ai un accident et que je peux aider quelqu'un, oui, je le ferai, c'est normal.
Vous connaissiez cette nouvelle législation par rapport?
Non, du tout, non. J'en ai jamais entendu parler. Non.
Parce qu'avant, il fallait s'inscrire, effectivement, pour être donneur, et maintenant, il faut s'inscrire pour ne pas être donneur.
Ah d'accord, carrément, il faut s'inscrire pour ne pas être donneur.
C'est
ça. Non, je ne savais pas. Non. Voilà.
Je trouve ça bien. Oui, oui, ça je le sais.
Bah,
je trouve que c'est très bien parce qu'on est tous un peu négligents en fait. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une démarche qu'on pense faire. Et je pense que c'est bien que ce soit automatique. De toute façon, quand on est mort, voilà. C'est, si on nous enlève un morceau qui peut sauver quelqu'un, pour résumer, autant que ce soit fait. Hein.
Voilà, exactement.
Oui, c'est bien.
Cette bah
c'est très bien. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est bien. Comme ça, tout le monde est concerné. C'est très bien. Moi, je suis à 100%.
Bah, je pense qu'il faut déjà demander à la personne ou à la famille avant de ne pas prendre la décision, que l'hôpital prenne la décision toute seule. C'est la famille ou à sa femme.
C'est la famille.
Famille ou à sa femme ou ses enfants. Ou mes enfants, c'est qu'ils prennent la... qui prennent la décision, c'est pas à l'hôpital de prendre la décision ou l'État. Quoi.
Là, c'est à la personne.
Finalement. Oui, c'est à la personne. Oui.
Bah, je trouve que c'est bien, parce que si les personnes n'ont pas donné leur dernier souhait, moi, ce sera pas perdu.
Oui.
Eh bien, je me tourne vers nos invités et j'aurais aimé savoir quelles sont vos réactions respectives. Qui veut commencer?
Donc, pour revenir sur... sur la loi de bioéthique. Donc la loi de bioéthique dit que c'est le principe du consentement présumé et ça a toujours été dans le principe de la loi. Sauf qu'effectivement, malgré le fait que beaucoup de Français disent qu'ils sont donneurs, les proches sont rarement informés de cela. Et quand malheureusement la personne décède, il n'y a personne pour témoigner de cette volonté de donner. Et dans ces moments un petit peu difficiles, il est plus simple pour les familles de dire « je ne sais pas Donc non, je ne veux pas. Dans la peur de passer outre une volonté du défunt qui n'est pas connue. Et donc là, j'ai envie de dire, ce serait le refus présumé qui s'appliquerait. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut absolument faire connaître son souhait, sa volonté autour de soi. Et on a des petites cartes, donc on distribue. Si vous voulez, on va vous en laisser un petit paquet, où on peut indiquer dessus le nom des personnes qui sont informées de votre souhait par rapport au don ou je ne veux pas donner. Parce que la loi et le décret Touraine donc, renforcent ce principe de consentement présumé et insistent bien sur le fait que même si on a une carte de donneur sur soi, les coordinations ont l'obligation de rencontrer les proches pour avoir un témoignage de leur volonté. Et donc, ayez ce petit carton sur vous, avec le nom des personnes à qui vous en avez parlé, et comme ça, les coordinations sauront à qui s'adresser pour savoir. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, parce que, imaginez-vous, malheureusement, dans cette situation, vous n'êtes pas informé, c'est une décision extrêmement difficile à prendre.
Et je demande à Madame Denis-Sandra quelle est sa réaction par rapport au micro-trottoir que l'on a passé à l'antenne.
Oui, mais effectivement, on entend qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour et puis qui ne connaissent pas toujours forcément exactement les termes de la loi. Et c'est vrai que beaucoup de gens, en fait, sont positionnés, sont pour, mais ils n'en ont pas parlé forcément autour d'eux. Donc le message vraiment qu'il faut faire passer, c'est se positionner pour ou contre. C'est un choix. Chacun choisit ce qu'il veut, même effectivement, comme on nous disait tout à l'heure, en choisissant les organes qu'on veut donner. Je parle des organes, mais des tissus également. Mais ce qui est important, c'est de le dire, c'est d'en parler maintenant. Donc si vous êtes autour d'un de vos proches, et ben dites-lui, si vous entendez à la radio, dites-lui si vous êtes pour ou contre.
D'accord. Et est-ce que je peux avoir l'avis de M. Boutelet-Alex, qui lui-même a été greffé ?
Bien sûr. De toute façon, moi, je suis aujourd'hui, bien sûr, pour le don d'organes. C'est une question que je ne m'étais pas posée avant, bien sûr. Maintenant, j'en parle autour des proches, j'en parle aux amis, j'en parle à tout le monde. Et c'est un travail qui commence, puisque je pense faire ça de plus en plus, de façon à ce que tout le monde puisse donner son avis et que ça aille vite derrière pour sauver plusieurs vies.
Y a-t-il, dans votre travail ou tout simplement dans le travail de la greffe, les organes qui sont les plus demandés, et si oui, lesquels? Et aussi, quels sont les organes qu'on ne sait pas encore greffer?
Qui veut répondre?
Les organes les plus demandés, je pense que ce sont les reins, effectivement, hein, puisque déjà, les gens peuvent attendre, puisqu'on a une solution aussi d'attente de traitement qui est la dialyse, qui est quelque chose de très contraignant, autant pour un point de vue psychologique, physique, très fatigant et contraignant au point de vue planning, qui empêche les gens après de travailler, d'avoir une vie normale. Donc, mais par contre, ça permet aux patients quand même d'attendre quelques temps la greffe, hein, effectivement. Il y en a qui sont dialysés depuis des années et des années. Et puis, effectivement, c'est peut-être une des greffes aussi qu'on fait en nombre le plus important, qu'on maîtrise sûrement aussi le mieux en France.
Pour avoir une idée, donc en 2014, il y a eu 3232 greffes de reins réalisées en France.
Oui.
Alors que de cœur, par exemple, il y en a beaucoup moins.
423. Voilà. Le problème de la greffe cardiaque, c'est que malheureusement, quand on ne peut pas être greffé, la survie est limitée.
Mais les organes qu'on ne peut pas greffer, alors?
Alors, on va refaire déjà peut-être le tour des organes qu'on peut greffer. On peut greffer donc les reins, effectivement, la plus commune, le cœur, le pancréas. On prend aussi dans les... Tout à l'heure, on avait évoqué également le foie, qui en plus peut être même divisé et servir à plusieurs personnes. Donc ça, ce sont les organes les plus couramment greffés. Il y a des organes, effectivement, vous disiez, qu'est-ce qui peut pas être du tout greffé, qu'on sait pas faire? Effectivement, on parle, je sais pas, le cerveau, on sait pas du tout greffer de cerveau à l'heure actuelle.
Donc la greffe de sexe d'homme, pour reprendre votre introduction, n'est pas d'actualité.
Pas encore.
Dommage.
Mais il y a aussi la greffe de tissu. On en a un petit peu moins parlé, et puis je pense qu'au niveau du public, c'est un petit peu moins connu. On peut greffer des tissus, donc on est capable de greffer des cornets. Je rappelle que c'est juste la petite peau, la petite paroi transparente qui est sur l'œil. Également des greffes de peau et des greffes d'os et de vaisseaux également. Et ça, c'est une greffe qui est un petit peu différente, parce qu'on a évoqué jusqu'alors la greffe de quelqu'un qui peut donner en mort encéphalique, donc pour les organes. Mais là, les greffes de tissu, ça se fait post-mortem, c'est-à-dire sur quelqu'un qui est décédé, à cœur arrêté. Donc, effectivement, on peut, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui décède à l'hôpital d'Évreux aujourd'hui, lors du décès, il y a des infirmières qui peuvent venir vous voir pour savoir si la personne aurait été donneuse de tissu et donc de cornée.
Justement, je m'excuse, mais pour quelle raison a-t-on besoin d'une cornée ?
Alors, justement, c'est ce que je... les cornées, eh bien, dans certaines pathologies donc très particulières de l'œil, hein, qui touchent évidemment uniquement la cornée, les gens ont une cécité, donc sont aveugles, mais uniquement dans les pathologies qui touchent la cornée. Donc, elles peuvent être greffées. Elles sont greffées, entre autres pour nous, dans notre région au CHU à Rouen. Et que des non-voyants retrouvent la vue, ni plus ni moins. C'est quand même énorme.
34 cornées ont pu être prélevées sur l'hôpital Orsène l'année dernière. Et à peu près la moitié ont pu être greffées donc sur des personnes qui, grâce à ces cornées, ont pu recouvrer la vue.
Est-ce que si on peut... c'est jouer un peu de calcul. Y a-t-il un pourcentage pour jusque-là des réussites pour les greffes ?
Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que ça s'adresse plutôt aux greffeurs et moi, je suis médecin de coordination de prélèvement d'organes. Ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, on a sur des personnes qui sont recensées en mort encéphalique, donc qui sont potentiellement donneuses, il y a à peu près la moitié qui vont aller au prélèvement.
Êtes-vous donneur vous-même ?
Oui, je suis donneur. C'est une question forcément que je me suis posée en intégrant la coordination. C'est une question que j'ai évoquée également avec mes filles, qui à l'époque étaient jeunes, hein, elles avaient 10 et 11 ans. Et n'hésitez pas à le faire parce que ça a été finalement un moment très riche et très intéressant puisque mes filles m'ont dit bah, « Bien sûr, maman, quelle question puisque je serai morte ?» alors que moi, je m'en faisais tout un film, quelque chose de difficile. Et finalement, ça s'est passé très facilement et très simplement.
Là, nous avons besoin d'un témoignage de quelqu'un qui est juste en face de vous, en face de nous, pardon. Son témoignage, il doit être vivant, je l'espère. Alex ?
Oui.
Je bouge.
Pourquoi cette greffe ?
Bah, disons que j'avais pas trop le choix. Hein. Je suis arrivé à l'hôpital aux urgences et ils m'ont pas laissé le choix. Enfin, ils m'ont dit, il y en a plus pour longtemps, donc on va être obligé de vous dialyser d'urgence. Donc je suis arrivé aux urgences à 14h et à 17h, je dialysais d'urgence. Et après, bon, il y a eu tout le parcours de dialyse. D'abord, ils m'ont mis un cathéter au niveau de la poitrine. Et après, je suis allé à Paris en 2-3 mois plus tard pour mettre une fistule dans le bras pour pouvoir piquer la dialyse 3 fois par semaine pendant 4h15. Donc ça fait à peu près arriver le matin en dialyse à 7h et repartir à midi. Donc en attendant donc, la greffe. Donc si je n'avais pas eu la greffe, je serais encore en dialyse.
Et quelles étaient réellement vos inquiétudes lorsqu'on vous a annoncé cette nouvelle ?
C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Hein. Vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Donc, quand je me suis endormi, pour moi, je n'allais pas me réveiller, c'est tout simplement.
Les suites de l'opération ont été lesquelles ? Avez-vous eu des contraintes de traitement ? Et comment vivez-vous cette greffe ? La recommanderiez-vous ? La greffe à un ami, dans votre état où vous étiez, dans les circonstances que vous aviez.
Bien sûr, je le recommande. De toute façon, j'ai gardé contact avec les gens de dialyse. Et régulièrement, je vais voir mes anciens collègues. Et ils voient bien que je suis en forme. Et moi, je les encourage à pouvoir être greffé un jour, si c'est possible pour eux. Et pour en venir à tout ce qui est derrière, bah effectivement, j'ai des anti-rejets matin et soir à vie, donc avec différentes doses. Hein, je suis suivi régulièrement à l'hôpital et prise de sang pour voir si tout va bien. Et en fonction des prises de sang, bah, on régule les médicaments.
Vous voyez votre vie ancienne, c'est-à-dire bien avant les greffes.
Oui.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un parallélisme pour cela ?
Non, je revis totalement, entièrement tout ce que je vivais avant. Uniquement à faire attention aux heures pour prendre les médicaments. Mais ça, bon, c'est devenu une habitude, hein. J'oublie très peu. Il ne faut surtout pas oublier, d'ailleurs. Mais non, je revis totalement comme avant. J'ai repris, même en dialyse, je travaillais quand même l'après-midi. Et là, depuis que je suis greffé, j'ai arrêté 3 mois de travail et j'ai repris le travail à temps complet. Et tout va bien. Et je remercie le donneur.
Et pour cela, en résumé, si on vous demandait un seul mot, que signifie don d'organes pour vous ?
Bah, sauver des vies.
Merci.
Merci. Nous remercions beaucoup. Nous espérons que nos auditeurs ont été touchés par ce que vous nous avez dit sur tout ce qui est don d'organes et les conditions, enfin, tout ce que nous avons évoqué. Merci beaucoup.
Merci à vous de l'intérêt que vous portez à cette activité. Merci.
Pourquoi ce serait important pour vous d'être donneur d'organes?
Parce que c'est ce qui permet de sauver d'autres vies. Donc si moi, la mienne n'est plus là, elle vivra ailleurs.
Bah, parce que ça peut sauver des vies.
Parce que justement, ça donne la vie. On en a besoin. En France. Non, c'est important de faire un don d'organes. Je pense. Après, maintenant, c'est mon avis et, personnel. Après, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte.
Bah, je sais pas, ça peut sauver une vie pour quelqu'un. Et puis, bah, pour nous, ça apporte pas grand-chose. Mais pour la personne, ça l'aide beaucoup.
Ben, déjà, parce que je suis croyante et je pense que mon corps pourrait servir à sauver les vies, quoi. Mes organes pourraient sauver les vies. D'autant plus que j'ai perdu mon mari, ça va faire 3 ans, d'une crise cardiaque à 60 ans, donc j'y pense de plus en plus.
Je pense qu'à partir du moment où on peut contribuer à sauver des vies, pourquoi ne pas le faire?
Ben oui, si ça peut sauver une femme, un homme, un enfant, oui.
Quelles sont vos réactions à ces micro-trottoirs?
Alors, on pense toujours du côté, on peut donner, effectivement, mais il faut penser aussi, malheureusement, on n'y pense pas des fois, c'est qu'un jour, on peut être du côté, j'aurai besoin, et je serai receveur, ou quelqu'un de ma famille, quelqu'un de proche. Et là aussi, je pense que ça change tout.
Qui veut réagir?
Toujours en 2014, quelques chiffres pour illustrer un peu. Il y a eu 20 311 personnes qui avaient besoin d'un organe encore au 31 décembre 2014. Et seules 5357 greffes ont été réalisées. Ah, donc ça vous donne bien l'image du manque d'organes qui est immense. Ces organes qui effectivement permettent à des personnes de vivre, tout simplement. Et donc c'est important, puisque visiblement, selon ce micro-trottoir, les personnes sont plutôt pour le don. C'est important de le dire. Voilà.
Donc moi, je voulais juste réagir. Effectivement, souvent, quand on pense donner ses organes, on pense avoir un certain âge. Or, il y a aussi des enfants qui ont besoin. En dialyse, moi, j'avais des jeunes enfants, hein, qui avaient, enfin, des ados, quoi. Et ça fait mal aussi de voir des ados comme ça. Donc vraiment, les dons, c'est pour tout le monde.
Okay. Merci de bien vouloir accepter à répondre à nos questions. Nous vous remercions. Et nous rappelons que nous avons reçu la visite du docteur Pascal Dubosc et de l'infirmière de coordination, madame Denise Sandra, de l'hôpital d'Evreux, et notre monsieur Boutelé Alex, qui nous a donné son témoignage. Merci.
Merci. Merci à vous.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire simple, mais nous allons faire un gâteau donc, de semoule pour une personne. C'est simple et c'est facile. Alors, il nous faut 30 grammes de semoule de blé moyenne, 25 centilitres de lait demi-écrémé, 30 grammes de sucre, temps de préparation 5 minutes, temps de cuisson un petit peu plus, temps de repos 15 minutes.
Donc d'abord, nous avons pris la quantité de lait nécessaire dans un verre doseur pour être sûr que nous avons bien la bonne quantité telle qu'elle est définie dans la recette. Et nous l'avons versé dans un magnifique saladier incorporé avec chrome. Dans un magnifique saladier où nous avons mis le lait. Et maintenant, nous allons procéder à la suite de la recette. Donc maintenant, nous allons mettre la semoule de blé moyenne. Il faut mettre 30 grammes de semoule de blé moyenne. Pour une personne, naturellement. 30 grammes pour une personne de semoule de blé moyenne. Donc là, nous avons notre coach qui a mesuré les 30 grammes de semoule de blé moyenne. Ensuite, donc c'est toujours versé dans le saladier, là où se trouve
donc,
le lait.
Maintenant, nous allons verser, une fois pesé, les 30 grammes de sucre, toujours dans le saladier.
Et maintenant que nous avons nous allons mélanger les ingrédients puis les mettre au micro-ondes à 800 watts puissance maximum. Pour l'instant, nous allons mélanger les ingrédients dans le saladier
dans le saladier. Vas-y, mélange pour de vrai. Hein.
Je vais me permettre un petit deux commentaires. Vas-y. Parce que moi, j'aimerais bien ajouter un peu de raisin. J'ai le droit.
Alors, nous, on va se permettre quelques petites fantaisies. Nous allons ajouter du sucre vanillé. Voilà, un petit sachet de sucre vanillé. Et nous aimons tous les raisins secs. Nous allons rajouter quelques raisins. Voilà.
Donc, nous avons mélangé les ingrédients et nous avons rajouté un peu de sucre vanillé ainsi que de raisins secs. Et nous avons mélangé le tout dans le saladier pendant environ 4 minutes, chronométré par notre collègue Didier. Voilà. Donc, il faut que nous le passions au micro-ondes. Il y a plus à cuire, mais en général... Tout d'abord, bonjour chers auditeurs, auditrices. Je vais vous lire un de mes petits textes récupérés dans les archives de Mama Béa. Je signale que Mama Béa est présente dans notre studio, donc voici ma petite perle, je vous la livre. Oui, d'accord, je suis là. Certes, des fois je te dérange, mais je suis pratique. Tu m'aimes bien et puis après tout, tu peux te servir de moi pour raconter des histoires, rapporter des faits. Bref, tu m'aimes. Mais pourquoi diable m'as-tu pris pour sortir ? Tu aurais pu me laisser, je t'aurais attendu, tranquille à la maison. Et gentiment, je t'aurais peut-être servi de rapporteur. Pour toi, j'aurais pris des messages, une espèce de secrétaire, quoi. Bref, j'aurais pris note pour tes rendez-vous sérieux ou bien ce qui t'embête. Toutefois, certes, j'admets que lorsque je me manifeste à toi, ce n'est pas toujours au bon moment. Mais ce que tu dois admettre, c'est que je suis présent, que je suis une présence pour toi. Bon, d'accord, je ne suis pas arabe, mais même à l'autre bout du monde, je peux te suivre. Je peux me faire petit, tout petit, si tu le veux. Et si tu m'éteins, je ne meurs pas, je veille, quand même. Tiens, au fait, ta mère m'a contacté. Bof, toujours pareil, d'abord, tu l'as entendu. Et patati, et patata. Quant à tes enfants, j'en ai assez. Ils me touchent avec les doigts pleins de nourriture. Bon, je passe. Ah, j'oubliais, tu peux me joindre à longue distance et même me laisser un message. Pour toi, je reste en stand-by. Mais oui, mais surtout, ne me prête à personne. On ne sait jamais à qui l'on prête. Toutefois, pense à me charger aussi, si tu crois que c'est utile. Mais attention, à l'étranger, je peux exploser et donc faire beaucoup de bruit. C'est si beau dans une foule, avec une enfant qui porte, pour le peuple, une ceinture pleine d'explosifs. Bon, je te quitte, ou toi, tu me le dis, je te quitte. Et ceci, car c'en est assez. Trop de messages sans réponse. Aussi alors, peut-être, abandonne-moi ou jette-moi. Si je fais trop de bruit. Vu que lorsque tu m'interroges, tu ne me prêtes attention que très succincte en su à ce que je te dis et tu ne réponds jamais. Tu m'écoutes, c'est tout. Je te laisse car on t'appelle, un autre comme moi. Allez, va, je te prie, réponds-lui. Et enfin, tu penseras à mettre fin à ta conversation. Et sache que je t'écoute quand tu veux. Je reste à ta disposition pour tout ce qui te reste de réellement important à dire. Soit tu me prends, soit tu me jettes. Comme tu veux, tu choisis. Je sais, je l'ai déjà dit. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Si tu me gardes, alors, de nouveau, surtout si tu es occupé, je m'occuperai de ta mère. Tu sais, Mama Béa, et je m'occuperai des rendez-vous et autre chose qui t'intéresse ou te répile. Mais je ne veux pourtant pas te déranger. Alors bon, je conclue. Oublie-moi, je me répète encore, zut. Tiens, offre-moi à une Anglaise ou à un Anglais, car elle, dès que je me manifesterai envers elle, elle dira, elle s'écrira, c'est ma soune, c'est mon soune, ou bien c'est mon dad, ou tout simplement et poliment, elle gueulera, that's this fucking bats bastard, oh shit, etc. Les Arabes, eux, n'ont pas besoin de moi, ils ont le leur propre. Allez, à bientôt. Drink, drink, drink. Et encore merci à Mama Béa. Tous ensemble, merci Mama Béa. Eh bien, ou on ne la connaît pas, ou elle a peu d'admirateurs. Je vous quitte là. Merci. À dans un mois. Vous connaissez la chanteuse ?
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois une donneuse de foi qui donnait son foi dans la ville de Foix. Elle s'est dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je donne mon foi dans la ville de Foix. Et le Narvalo dans tout ça, il continue son chemin en nous entraînant de plus en plus loin dans son univers, une fois avec son amant Lambert, Youquette, Marilyn, Laura Ingalls, Top Futé, Bernadette Gignac, Heur Professeur, Luke Lovecrash, Bébert et Lafouine. Le tout quarantaine futuroscopique prénuptiale. La cérémonie est retransmise en mégalovision multiverselle et commentée par Stéphane Bern et Vincent Marc Doum.
Bien le bonjour, je suis heureux de vous accueillir au plus grand événement matrimonial depuis le mariage du clone de la princesse Diana avec le clone de Valéry Giscard d'Estaing, à savoir le mariage collectif du Narvalo et de toute sa suite.
Stéphane, c'est une catastrophe pire que l'intégralité des prestations de la France post-Marie Myriam à l'Eurovision. Figure-toi, mon chou frisé, que les prétendants ne sont que 11.
Rassure-toi, ma bichette royale, le Narvalo a tout prévu, comme toujours dans sa magnificence et sa monomanie. Il fait une fois pierre deux coups diplomatique en invitant Frau, la chancelière Merkel, dirigeante de la nouvelle Grande Allemagne unie et gentille, et amie des Grecs.
Procédons au tirage au sort des couples. Les femmes, Youquette, Bernadette, elles sont très chouettes. Top Futé, Laura, pourquoi pas. Maquerelle, Marilyn, les copines. Chez les hommes, Lovecrash, Bébert, Bière et Camembert, Lafouine, Charles, tout le monde en parle. Sans oublier Narvalo et Lambert, Mac Lambert à son tour.
Allez, en rempart d'eux avec vos Hells Angels gay d'honneur. Si quelqu'un présent a une raison de s'opposer à ces mariages, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais.
Bah, moi, je suis secrètement amoureuse. Ou plutôt, disons qu'elle l'a jamais vu, de Bernadette. Et ce, depuis hyper longtemps quand même, voire encore plus longtemps, alors vous comprenez, hein.
Youquette n'a pas le temps d'exposer sa poignante et courageuse objection que tous les fusils des gardiens de la quarantaine du futuroscope se braquent en direction de sa truffe.
C'est noté, je vous ai compris. Avez-vous d'autres objections, sinon qu'on n'en tienne pas compte?
Pas d'autres objections. Je me sens soudainement à 100% amoureuse de Bernadette.
Très bien. Procédons aux échanges de consentement. Mettez-vous face à face pour l'échange de lunettes à moustache postiche offertes par les magasins Bricoramage et répétez après moi. Je jure infidélité, désobéissance,
insoumission, insubordination, irrespect et non-assistance à moitié ici présente devant hier jusqu'à la fin des sept quand on le dira.
Je vous déclare mari et femme et femme.
Les jeunes mariés d'office et sans contrainte, heureux par décret, provisoirement moustachus, sauf Bébert, unis pour le pire dans le meilleur des cas, se dirigent vers le train du Narvalo. Destination pour la suite des festivités, le parc punk No Futuroscope, bien connu des aficionados. Fondé par le rebelle tatoué Marc Pokora, nous nous quittons en souhaitant une lente et précaire vie aux mariés.
Le train démarre. L'équipé quitte Poitiers et son usine à rêve pour rejoindre les non-futuroscopes dans la capitale de Pinx, Breteuil-sur-Iton. Le train pile.
Que vois-je au loin ? Bah rien, comme d'habitude.
Laisse-moi voir. Tôt futé, je serai tes yeux, mon amour. Je crois que le train ne pourra pas aller plus loin que Gouville.
Message de service, message de service. Ceci n'est pas une grève. Veuillez ne pas quitter vos places au risque de déstabiliser ce convoi. Les portes des murailles de Breteuil nous sont fermées.
Je ne savais pas que Breteuil était fortifié. Aurait-il cloné Vauban ?
Non, les Pinks ont cloné Maître Canter et ont fondé la brasserie Breteuil Pro. Pierre de haute qualité, alcoolique et non gustative. La fortification n'en est pas une. Ce n'est que l'accumulation des canettes vides.
Mais que vois-je ? Bah, toujours rien. Arrête, tu te fais vraiment mal.
Par contre, ça sent la vache. Mon odorat ne peut mentir.
Le train est encerclé. Elles sont drôles, ces vaches, avec leurs épingles à nourrice dans les naseaux, leurs coupes à l'iroquoise et leurs perfecto cloutés.
Être enfermé, mes stress, ça me rappelle mes années de résistance souterraine au New Evre. J'ai risqué le tout pour le tout et j'ai tenté une sortie. J'ai fait montrer à ces bovins ce que signifie mourir en homme libre. Passez-moi mes rangers.
À peine sorti, la musique punk est assourdissante. Love Crash disparaît, probablement écrasé par le troupeau de vaches folles punk, belles et rebelles, adeptes du pogo et bien sûr de la bière.
On dirait un remake de l'émission de confrontation télévisuelle Intercité Canterville. Léo Zitrone, si tu nous entends, mort aux vaches.
Ah, bravo.
C'est sur ces mots pleins de compassion que nous quittons provisoirement le fil du récit. Les vaches pinques ouvriront-elles une boucherie de viandes humaines ? Connaissez-vous une bonne recette à base d'abats ? Love Crash est-il donneur d'organes ? Si oui, est-il bovino-compatible ? Pour le savoir, rendez-vous après notre coupure estivale. Prochain épisode, le jeudi 24 septembre prochain.
Ensuite, nous retrouvons la fin de notre micro-trottoir.
Si on vous dit don d'organe, qu'est-ce que cela vous évoque ?
Don d'organe, la vie, essentiellement.
C'est le fait de donner la vie à quelqu'un d'autre ?
C'est la mort, mais c'est la vie ensuite.
C'est faire don pour des personnes qui ont besoin justement d'organes. Mm-hmm. Bah, c'est une bonne chose. Mm-hmm. Si, si on a les bons organes à donner aux bonnes personnes.
Quelque chose d'important, auquel on a réfléchi déjà.
Bien, justement, actuellement, moi, je cherche à donner mes organes. Oui. Donc, mais je ne sais pas trop où m'adresser.
Aide à la personne.
C'est un geste altruiste, en fait, et autant de la famille, d'ailleurs plus de la famille peut-être que du donneur qui, lui, s'il n'a pas fait exprimer son choix auparavant, voilà.
Qu'il faut absolument le faire, que ça devrait être obligatoire.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a tellement de manque pour tous ces enfants et même ces personnes qui sont sur des lits et qui attendent d'une opération pour qu'on les sauve, soit des reins, soit du cœur. Soit... Donc on devrait chacun avoir un certificat comme quoi on est donneur d'organes ou au contraire qu'on n'est pas donneur d'organes, mais il faudrait absolument que les papiers soient faits en règle avant malheureusement que le décès arrive.
Ah, pour moi, c'est un don d'organes si quelqu'un en a besoin pour vivre, continuer à vivre, oui.
Moi, je suis pour, totalement pour. Et moi, plus tard, je souhaite donner mes organes aussi.
Pourquoi ?
Pour aider d'autres personnes dans le besoin. Puis on ne sera plus là, donc ça servira à quoi de les garder
Dans l'avenir, imaginez-vous le don d'organes en vente libre ?
C'est-à-dire en vente ?
En vente, la vente d'organes.
Non, je ne pense pas qu'il faut que ce soit, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un commerce, à mon avis.
Mm-hmm. Pourquoi ? Quel est le danger, à votre avis ?
Le danger, c'est qu'on aura, dans ce cas-là, une vitesse, entre guillemets, une médecine à deux vitesses, parce qu'il y aura les gens qui pourront s'offrir des organes et les autres pas. Mm-hmm. Donc, je trouve ça totalement anormal.
D'accord.
En vente libre, non. Non, non. Non, non.
Ou en vente.
Parce que, non, pas en vente, parce qu'après, ça va faire un commerce et on risquerait de tuer pour avoir le don d'organes. Alors non, surtout pas. Non, non, il faut quand même que la législation soit bien cernée là-dessus, qu'il n'y ait aucun problème. Mais pas en vente libre, non.
Alors je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que c'est pas un achat, c'est un don. Et la vente des organes, non. Le don, oui, mais pas la vente.
Non, pas du tout. Non, le don d'organes, c'est pas ça reste un don et c'est pas un marchandage quoi. C'est on n'a pas à se faire de l'argent sur ça quoi.
En vente libre ? Non, pas en vente libre. Je sais pas si c'est sécurisé ou quoi ces choses là. Ça me en vente libre, non, j'aurais pas trop confiance. Voilà.
Oh. C'est une drôle de question. Non, j'ai pas encore réfléchi, mais alors le don d'organes en vente libre. C'est pas. Enfin bon, je préférais que ce soit un don
oui.
Et pas.
Pas une vente.
Voilà, pas une vente, oui.
Non.
Pourquoi ?
Parce que ça peut être. De ça peut découler n'importe
ça
quel.
Peut ouvrir, hein.
Ah oui, non, franchement
mais
non.
Vous croyez quel est le risque ?
Le risque, c'est qu'on fasse n'importe quoi des organes, quoi.
Vente libre, peut-être pas, mais peut-être ouvrir un peu plus le... Comment dire ? Ouvrir un peu plus les possibilités d'aide par rapport aux personnes en besoin.
En vente libre, ton organe, c'est souvent les prix aussi. Les gens... Comment ça va se marcher au point de vue finance et tout ça quoi.
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'après on va avoir affaire à des choses pas très. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais à des choses pas claires. Après ça va ouvrir les portes à des échanges. Ça sera du n'importe quoi.
Un poème, c'est une drôle de chose, à peine plus clair qu'autre chose. Qu'un typhon de mots pour quelque chose, un tremblement de mots qui ne veulent dire des choses. Une inondation de choses, ça vous dit quelque chose. Vlan, la chose, ça me fait trop de choses. Bien des choses, on s'amuse avec ces choses. On va réfléchir à ces choses, on va penser à ces choses. On n'était pas conscient de la chose, près du bord, on eût dit la chose, un poème de choses, mais quelle chose. Vanessa.
Eh bien voilà, en espérant que vous avez passé un agréable moment de transplantation sans douleur en notre compagnie. Et si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, nous vous invitons à vous rendre sur le site de principactif.net. Vous pourrez également laisser vos commentaires sur la page de l'émission. Merci à l'équipe de la radio Principe Actif et à toute l'équipe de Zone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots. Et merci à vous, auditeurs. Nous nous retrouverons avec plaisir, j'espère, pour une émission estivale pleine de surprises le jeudi 30 juillet à 12h30. Merci.